BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, on sera avec Benjamin Binot, c'est le vice-président et directeur général de Procter & Gamble en France. Il viendra nous parler de la stratégie publicitaire de ce qui est le premier annonceur mondial. On s'intéressera aussi à l'art des slogans avec Denis Chaucha, auteur des bons mots de la pub, et Olivier Henry, cofondateur de l'agence La Force. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Pascal Weck, directeur associé digital de Coca-Cola European Partners, et Mathieu Maure, Head of Marketing Uber Eats France, qui lance tous les deux une opération très spéciale pour Noël. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec, comme chaque semaine, les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, on commence CB News avec une publicité dont on a beaucoup parlé cette année et qui a reçu le Grand Prix Effi.
Et oui, la publicité L'amour d'Intermarché. Un spot de 3 minutes réalisé par l'agence Romance. On y voit un jeune homme qui fait ses courses et qui achète des pizzas, des hamburgers, des glaces, jusqu'au jour où il tombe sous le charme de la caissière et décide alors de revoir ses habitudes alimentaires pour la séduire. Le film cartonne et enclenche le repositionnement d'Intermarché sur le mieux manger. Et les résultats sont là. La marque a augmenté ses ventes de 4% l'an dernier.
Et puis au Liban, cette campagne étonnante, Marie, qui a fait son apparition et elle met en scène Carlos Ghosn.
D'immenses photos du patron de Renault-Nissan ont fait leur apparition sur les panneaux publicitaires de Beyrouth avec la mention « Nous sommes tous Carlos Ghosn ». Une campagne orchestrée par une société privée en soutien à l'homme d'affaires d'origine libanaise. Carlos Ghosn représente dans le pays le symbole de la réussite de la diaspora libanaise. Depuis son arrestation au Japon, ses connaissances au Liban prônent son innocence, notamment sur les réseaux sociaux.
Et puis sur un ton complètement différent, on peut même pas faire plus éloigné, AXA France qui lance une campagne autour de la protection juridique, Marie.
Alors AXA met en scène des situations complètement décalées dans 5 petits films et joue sur le registre de l'absurde. On y trouve un perroquet qui prend feu ou encore une mariée qui brise un gâteau de mariage à coups de marteau. Et derrière ces vidéos, une pseudo-question juridique. En cas d'incendie, avez-vous le droit d'utiliser un extincteur sur un animal en voie d'extinction? Ou encore, si vous avez dit oui aux jumeaux de votre fiancé à Las Vegas, avez-vous 7 jours pour vous rétracter? Avec cette campagne, Rosa Parks prend le parti de faire rire avec un sujet pourtant très sérieux, celui de l'assurance.
Puis ils ont un sens de la musique très poussé chez Rosa Parks aussi. Marie, on termine avec McDo qui imagine une nouvelle façon de consommer son journal le matin avec un café.
En collaboration avec TBWA Group, McDonald's réinvente son offre McCafé dans plus de 1500 restaurants. La chaîne de fast-food propose désormais des gobelets de café avec un nouveau design et surtout un QR code qui est juste ici. Un code qui redirige les consommateurs vers des contenus d'actualité sur leur smartphone, des infos sport, mode, culture, news ou encore gaming. Pour l'occasion, un studio de production avec des auteurs a été créé, nous dit-on, afin d'alimenter ces contenus toutes les semaines.
Bon Frédéric, alors même McDo se lance dans les contenus maintenant.
Ben oui, maintenant, si on veut vendre quelque chose, il faut y ajouter de la valeur, du contenu. C'est comme ça, c'est notre société.
Bon, on a du souci à se faire alors.
Ben pas du tout.
Merci Marie Valogne.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Benjamin Binot, bonjour.
Bonjour, Aurélie Planex.
Vous êtes vice-président et directeur général de Procter & Gamble France, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Procter & Gamble, le plus gros annonceur du monde, 65 marques au total. Donc forcément, tout ce que vous faites en matière de communication est hyper regardé. Qu'est-ce que ça fait d'être un peu au cœur du réacteur ?
Évidemment, beaucoup de responsabilités et des devoirs aussi vis-à-vis de nos consommateurs. Procter & Gamble en France, c'est important pour le groupe, c'est une terre d'investissement. On est en France depuis 1954. On touche 9 foyers sur 10 en France. Donc on est dans le quotidien finalement des Français au travers de nos marques. Et on est aussi un acteur important pour la France avec 2000 salariés, 3 sites, un siège social à Paris et deux usines. D'ailleurs, on croit à l'industrie française qui marche bien pour nous. C'est deux fleurons industriels. Et je rappelle aussi qu'à Amiens,
Procter & Gamble, c'est made in France.
Oui, bah Amiens, c'est notre plus grosse usine d'Europe. C'est 300 millions d'investissements sur les 5 dernières années. On est le premier employeur de la ville d'Amiens, donc oui, pour nous, c'est important. Et c'est surtout important d'être près de nos consommateurs. La France, c'est dans les 10 marchés prioritaires pour le groupe. Ça veut dire quoi d'être marché prioritaire? C'est plus d'innovation, c'est plus d'investissement. Et c'est notamment une innovation qui doit correspondre aux attentes du consommateur français. Et le consommateur français, il est exigeant et l'innovation fonctionne plutôt bien. On est sur des marchés qui sont plutôt stables en volume, mais récemment, en valeur, ça reprogresse. Et nous, sur les 12 derniers mois, on a plutôt accéléré sur l'innovation. 30 innovations lancées l'année dernière, des innovations de rupture. Et notamment, il y a quelques jours, une belle innovation sur Gillette.
Par exemple? Alors, dites-nous en plus, parce que là, évidemment, oui. On a envie de savoir.
Non, sur Gillette, on a lancé au 1er décembre Gillette Skin Guard. Et en fait, ça part du postulat qu'on doit mieux servir les hommes en France. Et notamment, la France est aussi championne du monde des peaux sensibles pour les hommes. Ah, cet homme...
Enfin.
Exactement.
Enfin.
Non, cet homme sur 10, en fait, se plaigne d'avoir la peau sensible. Et ça peut aussi les amener à renoncer au rasage. Or, le rasage, c'est le premier geste, et peut-être le seul geste de beauté des hommes. Donc là, on y répond. C'est 10 ans de recherche. Et c'est un rasoir qui a été totalement repensé autour, finalement, d'un système avec deux lames. Et donc, une technologie pour réduire la pression et le stress sur la peau.
Moi, je croyais qu'il y avait toujours de plus en plus de lames chez les rasoirs.
Mais avec des très bons résultats et ça doit redonner du plaisir aux hommes de se raser, notamment quand on a la peau sensible.
Alors, on est super sensible dans le studio, c'est incroyable. Mais pour revenir à la pub, oui. On le disait, vous êtes le P&G et le premier annonceur au monde. Donc, quand il annonce des choses ou quand il prend des décisions, évidemment, ça fait un peu trembler la planète pub, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, les prises de position de Procter ont été assez nettes, entre autres en remettant en cause la publicité en ligne, la publicité digitale, en disant que vous alliez réduire vos investissements marketing, reprendre votre marketing en main. Pourquoi tout ça? Est-ce que vous avez, est-ce que vous, en France, dans notre partie de l'Europe, ça vous concerne et par conséquent, ça va nous concerner?
Alors, on croit à un modèle en fait équilibré entre, on va dire, de la publicité classique et les nouveaux médias, notamment les médias digitaux. Simplement, le média digital, il a un tout petit peu plus de 20 ans, donc c'est assez jeune, et c'est un média où on doit en effet contrôler les images qui circulent. Et quand on associe nos marques, eh bien, c'est des choses qu'on surveille. Et on doit aussi surveiller que les investissements faits en digital ont un retour pour nous. Donc, en effet, on y est sensible. Néanmoins, pour nous, c'est un sujet important sur lequel on se positionne et on investit. Le cadre en France est très clair. On est signataire, notamment, du programme FAIR, qui est porté par l'UDA, l'Union des annonceurs, qui pousse vers une communication plus responsable et notamment limiter les stéréotypes. Donc pour nous c'est un sujet important, et encore une fois ensuite on pousse nos marques.
Enfin, on voit pas encore dans vos pubs des hommes faire la lessive.
Alors, c'est un bon sujet parce que c'est un très bon sujet puisqu'on a porté une campagne il y a très peu de temps en fait qui s'appelle le partage des tâches justement sur Ariel. Ouais. Et j'en parle parce que justement porter des messages sociétaux, c'est important. Aujourd'hui, nos consommateurs nous le demandent. Et finalement, c'était quoi cette campagne? C'était une jeune fille en fait, une petite fille qui regardait son père faire la lessive.
La majorité est quand même de vos marques.
Non, et justement.
Une campagne, c'est bien, c'est un début, il en faut, mais.
Oui, mais justement, on s'empare de ce sujet de société. Et la lessive, c'est pas une affaire de femmes, c'est aussi l'affaire des hommes. Et donc, on l'a poussé à travers cette campagne. Et cette campagne, en 6 semaines, c'est 550 millions de vues. Okay. C'est 50% des
c'est beaucoup, enfin je m'en rends pas compte moi.
On met normalement 3 mois pour obtenir ce genre de chiffres. Donc oui, c'est beaucoup. Ça veut bien dire en fait que ça suscite l'intérêt de nos consommateurs et que c'est un sujet important dont on s'empare.
Mais du coup, elle passe en télé ou
absolument.
Oui, d'accord.
Absolument.
D'accord. Mais alors, vous faites aussi des campagnes, c'est plutôt aux États-Unis, des campagnes assez spectaculaires. C'est aussi, ce qui est intéressant avec Procter & Gamble, c'est que vous gagnez aussi des prix à Cannes. Avec une campagne Tide qui avait été remarquée avec des détournements des campagnes des autres, et puis aussi des campagnes très sociétales. Vous marchez comme ça toujours sur les deux pieds, ou pourquoi vous mettez pas tout ensemble dans la même chose?
Alors, on essaye effectivement de porter des messages qui peuvent être différents. On a 90% de nos consommateurs qui souhaitent qu'on se positionne sur des questions sociétales, sur des questions environnementales.
Oui, c'est valable pour toutes les marques maintenant aujourd'hui.
Et aujourd'hui, acheter, c'est quasiment un acte militant. Mmh. On l'a bien en tête et on se doit d'y répondre. Vous avez 65% des Français qui achètent ou boycottent des marques en fonction des valeurs aussi qu'elles portent. D'accord. C'est très supérieur à la moyenne européenne, quasiment 10 points au-dessus par exemple de l'Allemagne. Donc oui, on se doit d'être présent. Je rappelle, j'ai parlé d'Ariel, j'aurais pu parler aussi d'Always, qui est une de nos marques. On a une campagne qui s'appelle Like a Girl, comme une fille. Ouais. Et cette campagne, c'est pour redonner confiance aux jeunes filles au moment de la puberté, ouais. qui est un moment difficile. Et on a 9 femmes sur 10 qui reconnaissent que Always fait bouger les lignes et permettent notamment aux jeunes filles d'avoir peut-être plus confiance. C'est aussi notre rôle et on souhaite le jouer pleinement. Et en effet, on joue sur ces deux jambes, le sociétal et des bénéfices aussi sur nos marques.
Merci beaucoup Benjamin Bineau. Je rappelle que vous êtes le vice-président et directeur général de Procter & Gamble France, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
Merci à vous.
Merci.
BFM Business, Eddocom, l'édito.
Avec Charlotte Bricard de la rédaction de CBNews. Bonjour Charlotte.
Bonjour Aurélie.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez du lancement de la nouvelle Freebox, la Freebox Delta. C'était le 4 décembre. Qu'est-ce qu'elle promet de nouveau ?
Eh bien, elle promet de ne pas être une box, justement. Elle promet de pouvoir surveiller l'intérieur de sa maison, de pouvoir écouter de la musique avec une enceinte ciné de Vialet. Elle permet de contrôler la lumière par la voix grâce à Alexa, de lire la presse ou de regarder Netflix qui est intégré à cette offre. Grosso modo, cette offre qui, avec la One, arrive un petit peu en réponse au problème que rencontre le groupe Iliad en termes de recrutement, devrait permettre à Free d'arrêter un peu l'hémorragie en termes de perte d'abonnés depuis le début de l'année.
Et donc, ils font du haut de gamme.
Résolument. Alors, c'est un choix qui interroge un petit peu la concurrence et qui reçoit un accueil mitigé, rarement mesuré sur la toile, puisqu'on peut lire des titres comme « Free renie ses origines » ou bien encore « Free ne veut plus être le trublion qu'il a toujours été », puisque rappelez-vous, quand Free arrive sur le marché, on est en 99, il se lance avec un accès gratuit à Internet, avec des spots un peu cheap, mais toujours décalés, comme celui qui mettait en scène une fille de joie, qui proposait ses services à un marin pour rien, moyennant quoi elle déballait pendant leurs ébats une multitude d'offres commerciales. Même chose en 2002, quand Free vient big-banger un peu le marché de l'accès à Internet avec son offre triple play, qui était donc à 29,99 contre 45 euros en moyenne, soutenue par une campagne du même ton, crétin.fr, qui moquait généreusement ceux qui auraient fait le choix d'un autre opérateur.
Alors, comment ça se traduit d'un point de vue publicitaire, Charlotte ?
Aujourd'hui, clairement, on sent que Free ne veut plus être fournisseur d'accès Internet. Il ne veut plus rimer avec FAI, il veut rimer avec nouvelles technologies. Et quand on voit le teaser signé par DDB, il n'y a pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, il n'est nulle part mention d'accès à Internet. Donc, les scénettes de comédie de l'époque sont remplacées par des écrans noirs et blancs, très typographiques, très graphiques, très chics. Mais le consommateur de Free, qui avait toujours été au cœur de ces spots, a lui totalement disparu. Out donc les spots potaches, comme celui qui est resté, à mon avis, le plus culte, qui mettait en scène un jeune geek très caricatural qui avait été recruté dans une boîte de nuit en Belgique et qu'on appelait Rodolphe.
Allô, ich bin Rodolphe.
Mémorable. Voilà. Auf Wiedersehen, Rodolphe. Et auf Wiedersehen, Charlotte. Merci beaucoup.
BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Et aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser au slogan en compagnie de Denis Chaucha. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes concepteur-rédacteur dans la pub depuis une quarantaine d'années et vous publiez les bons mots de la pub. À vos côtés, Olivier Henry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur de la création de l'agence La Force. Alors, c'est quoi un bon slogan, Denis Chaucha ?
Un bon slogan, c'est un slogan qu'on retient en 2 secondes, qu'on remarque en 2 secondes et qu'on retient très très vite.
Et pour longtemps ?
Et si possible, pour longtemps.
C'est toujours
qui doit durer longtemps, effectivement.
C'est toujours le cas, Olivier Henry ?
Oui, c'est toujours le cas. Après, ça change. Ça change parce que la publicité change, les gens changent. Donc peut-être qu'on adresse des messages un peu différemment maintenant.
Et c'est quoi la différence entre un slogan et une signature de marque ?
Je dirais peut-être qu'il y a déjà un peu d'histoire. Un slogan, c'est peut-être quelque chose qui doit exprimer quelque chose de assez léger de façon très forte. Alors qu'une signature doit exprimer un peu plus de valeur de marque, un peu plus d'un positionnement, un peu plus de réflexion.
Frédéric.
Et est-ce que, au cours du temps, parce que quand on voit les slogans dans le bouquin, on est sur des, on a l'impression sur des choses assez immédiates, buvez, éliminez, des choses comme ça qui viennent, qui
buvez pissé
même.
Non, mais ça, ce serait plus possible aujourd'hui, soyons clairs.
Ça serait plus possible. J'ai envie de préciser une chose, si je peux me permettre, c'est qu'il a raison, Olivier, mais un slogan, c'est une accroche. Et une signature, c'est ce qui vient sous la marque. D'ailleurs, une signature qui s'appelle. Ça vient sous la marque. C'est les voitures à vivre. C'est une signature. Et un slogan, c'est 3 litres d'eau au 100.
Voilà. Ouais. Mais alors,
c'est une accroche.
Il me semble que ça se complique un peu quand même. C'est moins spontané que ça ne fut. Je me trompe, Olivier Henry?
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a changé. Mais ce qui a changé aussi, c'est qu'auparavant, on avait des médias de masse et le mot masse s'appliquait réellement. On avait peu de télé, on avait peu de radio, un peu de presse, un peu d'affiches. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de télé, on a beaucoup de radio, on a beaucoup d'endroits où on peut toucher les gens. Donc déjà, pour émerger, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut synthétiser son discours. Le problème, c'est que parallèlement, les annonceurs et les agences ont tendance à vouloir raconter plus de choses en moins de temps. Donc c'est plus compliqué.
Et c'était mieux avant, Denis Chauchat, ou pas?
Je crois qu'il faut pas dire ça. Je crois que, comme dit Olivier, ça, les temps changent, la publicité évolue. Je pense malgré tout que les grandes marques ont une signature qui dure depuis très très longtemps et qui va durer encore longtemps. Des choses comme Fraîcheur de vivre d'Hollywood, ça a 50 ans et c'est toujours Fraîcheur de vivre. Que ça soit sur le net, que ça soit la télé, que ça soit un affichage. Ça fait 50 ans que cette signature existe et qu'elle perdure et que les images changent, mais les mots sont toujours les mêmes. Et il y a plein de marques comme ça.
En regardant un peu dans votre livre, il y a effectivement plein d'exemples. Alors, j'ai retenu des trucs basiques. Pas d'erreur, c'est le sieur. Il y a que Mikey Mai ou encore le gal le goût. Est-ce que les formules les plus simples et les plus efficaces sont celles qui marchent le mieux ou c'est plus compliqué que ça, en fait?
Je pense que ce sont celles qui marchent le mieux pour une bonne raison. Déjà, c'est que nous, on s'intéresse à la pub. Vous vous intéressez à la pub. Mais je pense que la grande majorité des gens ne sont pas des hystériques de publicité. Donc, il faut les accrocher. C'est le cas de le dire, il faut les accrocher avec une accroche qui les frappe et qui font qu'ils vont s'en souvenir tout de suite. Et après, ça perdure effectivement dans le temps.
Mais effectivement, cette question de la durée, moi, il y a un vrai sujet là sur la durée. Parce que vous dites, à la fois, on doit tout de suite la mémoriser, percuter et comprendre et donc la reproduire. Et à la fois, ce qui fait... Somme toute, le succès de certains de ces bons mots de la pub, c'est le fait qu'on les connaît depuis la nuit des temps. Et ça m'est arrivé, moi, en tant que journaliste, d'aller voir des agences et leurs clients, disant, bah, nous, ce qu'on voudrait, c'est changer, parce que notre signature de marque, ça fait 20 ans qu'on l'a, et les gens arrivent plus à s'en décoller. Et voilà. Et comment est-ce qu'on fait, Olivier?
Déjà, la bonne question, c'est est-ce qu'il faut vraiment changer? Ouais. Je suis pas sûr. Nike, just do it. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de changer. D'ailleurs, ils ont essayé une fois, hein. Ouais. Ils ont mis play. Et puis, ils sont venus sur just do it. Parce que just do it, ça marche quand même beaucoup mieux quand on est Nike. Si je reprends un exemple plus proche de nous, RAM, il faudrait être fou pour dépenser plus. Ça a plus de sens aujourd'hui, autant qu'avant. Donc, pourquoi changer? Non, c'est un peu souvent l'erreur.
Il y a un peu une envie quand même, hein, dans les agences ou chez les annonceurs.
Je pense que
c'est pas qui décide des deux, mais...
C'est souvent les deux, et en fait, je pense que c'est souvent une erreur. C'est pas parce qu'on change d'agence, on change de stratégie qu'il faut changer ce qu'on a à dire. Parce que finalement, si ça marche dans la tête des gens, pourquoi changer?
Est-ce que les slogans, ça peut survivre à l'ère numérique, où finalement, on a des formats qui sont de plus en plus courts, on n'a pas forcément la place de marquer trois lignes, même si les slogans sont souvent plus courts. Est-ce que ça va survivre, ou est-ce que justement, avec des contenus qui évoluent, qui changent, est-ce que finalement, on va pas changer très vite tout ça?
Moi, pour ma part, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des messages clairs, bien identifiés. Et c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, enfin hier, j'étais dans mon canapé, je regardais la télé, j'avais mon message. Aujourd'hui, je suis dans la rue et j'ai mon smartphone et puis j'ai ce putain de truc qui m'énerve et que j'ai envie de cliquer pour l'enlever. Bah, le temps que je l'enlève, donc c'est de quelques secondes, il va falloir que le message soit clair. Et si possible, bien exprimé, plutôt créativement. Donc on en revient finalement à la même problématique. Si le message est clair, percutant, une accroche, effectivement, je vais le retenir, quel que soit le format.
Denis Chauchat, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord. Je vais revenir à quelques exemples que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que les marques qui durent longtemps, effectivement, gardent leur signature. Effectivement, il y a des retours de signature. Vous avez pas parlé des rames, qui est une signature des années 80, faite par Chatillez, et qu'ils ont remis au goût du jour il n'y a pas très longtemps. Il y en a une autre que j'ai redécouvert, déjà mon bouquin est has-been. Le chausseur sachant chausser, ils l'ont ressorti.
Ouais.
André l'a ressorti. Ouais. Ils sont passés par tout va bien. Ils sont passés par chausseur depuis 1842 ou je sais pas combien. Et là, ils ressortent une signature des années 70, le chausseur sachant chausser. Donc ça prouve bien quand même qu'il y a des ancrages de marques qui sont importants, qu'on soit sur Internet, qu'on soit à la télé, qu'on soit à la radio ou en affichage. Parce que je pense aussi que plus on matraque, c'est sordide, mais plus on matraque une marque et son, sa signature, plus vous avez de chance de la rencontrer et effectivement de faire... du boulot pour Procter.
Merci Denis Chauchat. Je rappelle votre ouvrage qui s'appelle Les bons mots de la pub et Olivier Henry, cofondateur et directeur de la création de l'agence La Force.
BFM Business, Ed.com, comme un chef.
Et ils sont deux d'ailleurs. Cette semaine, Pascal Weck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur digital de Coca-Cola European Partners et Mathieu Mort, bonjour.
Bonjour.
Head of Marketing chez Uber Eats France. Coca-Cola et Uber qui s'associent, Uber Eats qui s'associent pour Noël avec une opération très spéciale pour ceux qui travaillent le 24 décembre. Racontez-moi ça.
Avec plaisir. Donc juste un petit mot sur Coca-Cola European Partner France. Nous produisons, distribuons et commercialisons des boissons rafraîchissantes sans alcool. Donc d'où est venue l'idée avec Mathieu? Coca-Cola et Noël, vous le savez, c'est une longue histoire d'amour. Ouais. C'est l'occasion pour nous d'exprimer nos valeurs de marque, le rassemblement, le partage. Donc nous avions une double volonté. La première volonté, c'était de pouvoir permettre au plus grand nombre de bénéficier de la magie de Noël.
C'est ambitieux.
C'est ambitieux et je pense qu'on y est arrivé. Et la seconde volonté, c'était de travailler avec des nouveaux circuits de distribution, les plateformes de livraison de repas à domicile.
Ouais.
Et donc, c'était l'occasion parfaite de travailler avec Uber Eats pour aller trouver des nouvelles cibles de communication des familles urbaines, mais également des millennials.
Alors justement, Mathieu Mort, de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi cette opération magique qui nous va nous faire revivre à tous la magie de Noël?
Alors cette campagne, elle s'appelle Noël comme à la maison et elle démarre aujourd'hui. Donc la campagne, on l'a illustrée via un film. Qu'est-ce que raconte ce film? Ce film va parler d'un gardien de nuit qui travaille le soir de Noël et qui s'apprête à vivre une soirée assez exceptionnelle. Donc grâce au service Noël comme à la maison, il va pouvoir le soir de Noël se faire livrer le plat préparé par sa famille sur son lieu de travail.
Mais c'est dingue. Et ça va lui coûter quelque chose?
Et non, c'est gratuit. L'idée, c'était de faire un clin d'œil à tous ces gens-là qui travaillent le soir de Noël. On a pris l'exemple du gardien de nuit, mais ça pourrait être aussi être un policier, un pompier ou un docteur. Voilà.
Pascal Weck, comment est-ce que ça marche concrètement? Je m'inscris sur un service, si je travaille le 24 décembre, comment ça... il y a une application, je sais pas, comment ça
du coup, tout se passe sur l'application Uber Eats. Et je peux laisser Mathieu, effectivement, dire concrètement qu'est-ce qui se passe sur l'application.
Alors concrètement, de aujourd'hui jusqu'au 15 décembre, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur l'application Uber Eats et expliquer, et donc renseigner un formulaire expliquant pourquoi est-ce que vous travaillez le soir de Noël et expliquer votre situation. On sélectionnera ensuite les participants et le soir de Noël, un coursier ira chercher le plat dans la famille et l'apporter à la personne qui travaille, ainsi qu'une bouteille de Coca-Cola personnalisée.
C'est quoi cette bouteille de Coca-Cola personnalisée? Il y aura leur nom dessus?
Exactement. C'est une vraie personnalisation de la bouteille parce que ça permet effectivement de multiplier l'expérience de consommation de nos produits et d'offrir encore une fois, de célébrer la magie de Noël.
Non mais je trouve ça génial, mais ça marche partout en France? On peut candidater n'importe où?
On peut candidater n'importe où. Donc Uber Eats est présent dans 60 villes en France.
Ouais.
Et donc maintenant, a priori, on voit que la campagne a bien démarré puisque ce matin la vidéo est partie. On est déjà à 1 million de vues sur la vidéo. Et on va voir quelle est l'appétence des utilisateurs. Est-ce qu'ils vont s'inscrire pour pouvoir participer et se faire livrer Noël comme à la maison.
Et juste également un dernier mot, au-delà de la campagne, ce qui nous a semblé intéressant, c'est ce partenariat entre Uber Eats et Coca-Cola, c'est vraiment un partenariat qu'on souhaite avoir dans le temps, c'est un partenariat à long terme, à la fois marketing et commercial, qui nous permettra, nous, Coca-Cola, de mieux distribuer nos produits.
Donc si je comprends bien, on s'inscrit sur le site, on dit, moi je travaille le soir de Noël pour X ou Y raison, et je dis, par contre, ma famille, elle sera chez mamie Juliette à tel endroit, est-ce que vous pouvez passer chercher le rôti?
C'est exactement comme ça que ça se passe.
Bon, et donc on découvre ça évidemment, ce film de romance qui fait la promotion de votre campagne, qui est un très joli film d'ailleurs, sur Internet. Merci beaucoup Pascal Weck, je rappelle que vous êtes directeur digital de Coca-Cola European Partners, et Mathieu Mohr, Head of Marketing d'Uber Eats France. Merci également à Frédéric Roy d'avoir été à mes côtés comme chaque semaine dans Hebdo.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un best-of qui sera suivi de deux émissions consacrées au cristal les deux semaines suivantes. À très vite.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.